Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui au livre de la ponctuation ou l'art d'accommoder les textes et nous recevons les deux auteurs de ce livre paru aux éditions du Seuil en avril 2006. Les deux auteurs qui sont donc Olivier Houdard et Sylvie Prioul. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Sylvie Prioul, vous êtes secrétaire de rédaction au Nouvel Observateur. Olivier Houdard, vous êtes correcteur au Monde.fr. Vous êtes venu nous rendre visite dernièrement pour le blog que vous animez avec Martine Rousseau, il me semble bien, qui est votre collègue au Monde.fr. Et c'était pour le blog Clang Sospiquante. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc votre livre, La Ponctuation. Alors, bien sûr, je l'ai lu, je l'ai trouvé très drôle et en même temps très instructif. Alors, je pense que c'est le reflet de votre caractère. Avant de commencer cette émission, on a un peu discuté, effectivement, on voit ce ton, on va dire, un peu enlevé. Donc c'est un livre où l'on passe de Crébillon fils à Nick, un blogueur qui a écrit dernièrement, suite à son blog, Des souris et un homme. Et nous passons également des moines copistes aux chatteurs qui utilisent des petits smileys ou binettes. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui savent certainement ce qu'est une binette, je vais peut-être leur redire, c'est une association de ponctuation qui nous fait faire des petits bonhommes souriants ou pas. Alors, commençons par le début. Nous allons peut-être évoquer un peu l'histoire de la ponctuation, parce que finalement, effectivement, moi je m'étais encore jamais posé la question, qui un jour a eu l'idée d'inventer, de mettre ces signes pour aérer ou donner une compréhension supplémentaire au texte. Alors, qui veut commencer ? Olivier Houdard.
À vrai dire, ça va paraître bizarre, mais on n'en sait pas grand-chose. On en est qu'au stade des conjectures, mais apparemment, ça viendrait des responsables de la grande bibliothèque d'Alexandrie, à peu près à l'époque d'Alexandre le Grand. Les premiers balbutiements de la ponctuation datent de cette époque.
Alors, ce que j'ai lu dans votre livre, c'est que la ponctuation, donc là je vous cite, la ponctuation est née de périodes de recul ou de disparition de la production littéraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en détail ?
Oui, bah, comme on le dit dans le livre, par exemple au Moyen-Âge, les gens capables de lire et d'écrire ne devaient pas être plus d'un millier en Europe. Donc ça donne une idée de l'ampleur du désastre. Et à cette époque, tous les gens qui avaient un peu d'intérêt pour la chose littéraire, la culture, plutôt que d'écrire, la priorité, c'était d'éviter la disparition de certains textes. Et puis, quand cette disparition a été évitée, de les éditer pour qu'ils servent au moins à quelques lecteurs.
Parce que c'était la conservation.
Oui, c'était à cette échelle-là. De toute façon, un moine qui copiait un manuscrit, il travaillait pour quelques individus, en fait. Hein. C'est pas du tout à la même échelle que notre époque où un livre est diffusé à des millions d'exemplaires, un journal, enfin bon. Voilà, les priorités étaient des priorités, si je puis dire, c'était plus mince, quoi. Mais enfin, d'un autre côté, ils ont rendu un grand service à l'humanité.
Alors, la ponctuation débute au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Et à partir de ce moment-là, ça va se poursuivre au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'à encore aujourd'hui. Quels vont être les premiers signes qui vont apparaître et que l'on garde encore actuellement ? Sylvie Prioul, peut-être ?
La ponctuation, comme on l'a dit, apparaît surtout dans la grande bibliothèque d'Alexandrie avec Aristophane de Byzance, qui est le premier à se pencher un peu sur...
C'est pas l'Aristophane que l'on connaît
Ah, c'est pas celui qui écrit des comédies bien connues. Non, c'est un autre Aristophane, qui était directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et qui déjà tente, lui, de rendre plus clairs les textes de l'Antiquité, qui était écrit, on le sait, sans ponctuation du tout. Et les mots attachés les uns aux autres. Donc la lecture en était assez difficile.
Avec certainement aussi des contresens, peut-être.
Ah, évidemment, là, après, c'était une question d'interprétation du lecteur. Donc Aristophane de Byzance essaie donc de clarifier les textes antiques Et il introduit une première ponctuation qui est une ponctuation de points. Le point en haut, le point médian et le point en bas, qui sont trois ponctuations qui vont rester un certain temps.
Alors le point en bas, c'est le point que nous conserverons actuellement ?
Non, le point qu'on conserve, c'était le point en haut, le point le plus important. Voilà. Et puis il va séparer les mots, il va introduire des blancs. Donc ça, c'est une grande innovation, c'est le fait de séparer les mots et de les rendre donc lisibles un par un, ce qui va faciliter énormément la lecture. On s'en rend compte, hein, il suffit d'écrire soi-même en attachant tout, par exemple, et de regarder ce que ça donne, et de regarder la difficulté qu'on a à lire un texte, même simple.
Et vous donnez d'ailleurs un exemple dans votre livre où vous citez Boris Vian, et vous mettez un morceau de texte où vous avez enlevé toute la ponctuation, oui, et notamment 12 points, effectivement, pour pouvoir lire le texte dans son sens initial, c'est très difficile.
Oui, on a fait des petits exercices dans le livre qui permettent de voir l'importance de la ponctuation, c'est-à-dire on propose des petits textes déponctués et à charge pour le lecteur, mais il a la réponse à la fin du livre, hein, à charge pour le lecteur de remettre la ponctuation ou d'en imaginer une autre, parce que la ponctuation n'est pas, ça c'est ce qu'on dit aussi, c'est pas comme l'orthographe, il n'y a pas une ponctuation possible, il y en a toujours plusieurs. C'est là que la ponctuation s'insinue dans quelque chose qui ressemble au style plutôt d'écriture, voilà.
Alors oui, Olivier Houdard, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, à propos justement, à propos d'Aristophane, alors du premier, c'est-à-dire de l'auteur de comédie, justement...
Que vous connaissez très bien.
Oui, justement, Sylvie parlait des problèmes de contresens ou de faux sens. Alors un problème très simple qui est posé par les comédies d'Aristophane, c'est des dialogues. Et comme tout était attaché à la file, les premiers manuscrits ne mentionnaient pas les changements d'interlocuteurs. Donc, encore maintenant, il y a des changements d'interlocuteurs qui posent problème. On ne sait pas si telle phrase a été dite par tel interlocuteur ou tel autre, parce que rien ne le mentionne, quoi.
C'est à l'imprimeur de décider, de voir...
Non, pas seulement à l'imprimeur. Il y a des tas d'érudits qui se sont penchés là-dessus. Mais si vous prenez n'importe quelle pièce d'Aristophane, vous verrez, il y a des variantes, parce qu'on n'est pas sûr que tel mot soit bien le bon. Et aussi, on n'est pas sûr que telle réplique soit bien de tel personnage et pas de tel autre.
Alors, si on avance dans le temps, il me semble que c'est la même chose lorsqu'apparaît l'imprimerie. On est à peu près donc, au 15e, 16e siècle. Les auteurs ne ponctuent pas et ce sont les imprimeurs ou les typographes qui vont eux-mêmes ajouter une ponctuation.
Oui, oui. Et le premier traité de ponctuation qu'on connaisse, c'est celui d'Étienne Dolay qui était un imprimeur. Et c'est vrai que les auteurs laissent ce travail aux imprimeurs. Alors, Étienne Dolay, lui, n'a pas encore tous les signes de ponctuation à sa disposition. Il en recense un peu moins que ce qu'on a de nos jours. Mais il a déjà le point, la virgule.
Le point d'interrogation.
Voilà. Et il a réfléchi là-dessus. Et c'est lui qui ponctue les textes. C'est lui qui éditera d'ailleurs Rabelais.
Et Rabelais, apparemment, qui ne sera pas tellement satisfait de la version imprimée, puisque ça changeait le sens de son texte.
Voilà.
Oui, il se serait fâché là-dessus.
Sur des questions de ponctuation.
Ouais. Mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser comme ça, parce que la ponctuation, c'est encore un domaine qui est très peu exploré. On est toujours à la merci de la découverte d'un vieux manuscrit qui nous montrerait qu'il existait telle ou telle ponctuation à une époque où on pensait qu'elle n'existait pas encore. Donc tout ça est très mouvant. Et on ne peut pas généraliser parce qu'en fait, chacun faisait un peu comme il voulait.
Il n'y avait pas d'uniformisation.
Oui, voilà. L'imprimerie a amené une uniformisation et quasiment internationale même. Hein, alors qu'avant, c'était vraiment chacun son truc, quoi.
Si on fait un petit retour en arrière, avant donc l'imprimerie, si on se place dans les autres apparitions de points, de ponctuation, il y a le point d'interrogation et le point d'exclamation. Et dans votre livre, vous faites la différence entre le point d'interrogation où effectivement on est dans une période peut-être de recul sur le plan de la connaissance ou... En tout cas, on va plus se centrer sur ce que l'on connaît déjà. Et le point d'exclamation qui arrive à la période de la Renaissance, où là, c'est la découverte, aller vers l'autre, et puis la connaissance. C'est assez curieux de voir que ça se reflète sur la ponctuation.
Oui.
Alors, qui invente le point d'interrogation et qui invente le point d'exclamation? Et où ça se passe, géographiquement?
Le point d'interrogation est inventé au Moyen-Âge.
C'est Ildemar.
Ildemar, oui.
Enfin, on lui attribue cette invention.
On lui attribue, oui, tout ça est à mettre entre guillemets, justement. Bon. C'est la première fois qu'on le voit apparaître, c'est sur un manuscrit de cette île de Mar. Et apparemment, c'était aussi pour empêcher certaines ambiguïtés dans les textes sacrés. C'est-à-dire que la tradition savait que telle ou telle phrase des textes sacrés était interrogative, tout au moins qu'il fallait la dire. Elle n'était pas grammaticalement parlant interrogative, c'est-à-dire il n'y avait pas inversion
sujet-verbe.
Tout ça, bon. Mais on savait que c'était interrogatif. Et pour que cette connaissance ne se perde pas, donc les moines ou ce moine, bon, on ne sait pas bien, a inventé le point d'interrogation qui était une façon d'indiquer au lecteur à voix haute, parce que ces textes étaient destinés à être lus à voix haute, hein, faut pas l'oublier. C'est une chose que nous avons d'ailleurs découverte à l'occasion de ce livre, c'est que la lecture à voix basse pour soi-même, c'est quelque chose de très récent dans notre civilisation, et qu'auparavant même quand on lisait seul un texte, on le lisait à voix haute pour en saisir mieux le sens.
C'était pas forcément parce qu'il y avait un public qui pouvait nous écouter, parce qu'on avait la connaissance, on savait lire.
Non, pas du tout. Non. Il y a plusieurs citations célèbres, notamment une de Saint-Augustin, où il raconte sa surprise, enfin pas sa surprise, mais où il raconte un peu dans les détails qu'il va voir quelqu'un, je ne sais plus qui, un autre saint, qui est en train de lire, il raconte la scène et il dit que ce saint est lié à voix haute, quoi. Et il n'est pas surpris, mais pour lui, c'est une évidence, quoi.
Donc la ponctuation est une manière de faciliter la lecture intérieure, la lecture à voix basse.
Non, mais c'était...
La lecture à voix haute, tout simplement, hein, pour donner des arrêts, des respirations. Justement, le point d'interrogation qui permet de donner l'inflexion interrogative à la phrase.
Alors, pour le point d'exclamation, vous faites la remarque, et effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a, entre le point d'interrogation et le point d'exclamation, plusieurs siècles qui les séparent, alors qu'ils se ressemblent quand même étrangement.
Et oui, et puis au début, ils vont même être très proches graphiquement, hein, quand on regarde justement le traité d'Étienne Dolay.
Le point d'exclamation, alors, quelle est son histoire?
Mais le point d'exclamation, il naît, lui, en Italie, et ce sont les humanistes italiens qui vont l'inventer, de toutes pièces.
Et qui va tout de suite être adopté, ou au contraire, qui va un peu traîner en longueur avant d'être utilisé dans les textes?
Non, ça va aller assez
vite. Ça va aller très vite. Hein. Et puis, il est très, très utile, enfin, on s'en rend compte. Et puis, il est aujourd'hui un des signes les plus utilisés. On n'a qu'à regarder les courriels.
Je vous propose de marquer une courte pause. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. Et là, nous aborderons peut-être les nouveaux signes à venir, sait-on jamais. Existera-t-il une nouvelle ponctuation? Ou est-ce qu'il y aura un seul point pour tout? C'est ce que l'on verra tout de suite après cette pause.
L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Suite de notre émission Au fil des pages sur le livre La ponctuation ou l'art d'accommoder les textes, paru en avril 2006 aux éditions du Seuil. Et nous avons la chance de recevoir les deux auteurs, Olivier Houdard et Sylvie Prioul. Avec vous, dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons pouvoir parler des signes de ponctuation qui auraient peut-être pu avoir une plus longue existence et qui finalement n'ont pas duré, ou d'un signe peut-être qu'on ne connaît pas encore très bien, l'interrobangue, qui pareil aurait peut-être pu avoir une longue vie, et finalement une vie très courte lui était dévolue. Alors, quels sont les signes de ponctuation, Sylvie Prioul ou Olivier Houdard, que vous auriez aimé voir apparaître dans les textes que vous corrigez, ou quels seraient les signes de ponctuation qui pourraient se créer? Vaste question.
Il faut dire quand même qu'on a maintenant des dispositions 10 signes de ponctuation qui permettent quand même... d'exprimer à peu près tout ce qu'on veut sans trop de problèmes.
Même si on utilise parfois un peu trop le point d'exclamation dans les mails.
Alors ça, c'est autre chose. Après, la façon d'utiliser les signes, elle est, on le sait, personnelle, parce qu'on l'a quand même remarqué en lisant beaucoup. Bon, on connaît les trois points de Céline, on connaît...
Voilà ce que j'allais dire.
Bon, je sais pas, on a pas mal cité Ségalène, qui met énormément de tirets. Enfin, voilà. Chaque auteur, on peut dire, a un peu ses signes préférés. Il y a aussi des signes, évidemment, qui sont les signes du dialogue. Des pièces de théâtre, ou même d'Alphonse Allais, qu'on cite aussi beaucoup, qui met beaucoup de dialogue dans ses textes. Où là, évidemment, ce sont les signes, point d'interrogation, d'exclamation, suspension. Mais qui sont les signes, en fait, qui reflètent l'oralité.
Mais personne, depuis, a eu l'idée d'inventer de nouveaux
Alors,
signes.
Alors, bien sûr que si, ça, c'est arrivé. Dans les années 60, on a quelques signes qui naissent, qui sont, par exemple, le point, enfin, qui tentent de naître. Le point d'ironie, par exemple.
Le point d'ironie. Alors, qui l'a inventé, ce point d'ironie? Moi, j'avais Hervé Bazin.
Oui, oui, voilà, c'est Bazin.
Ah non, c'est Bazin.
Bazin qui a inventé.
Mais qui proposait d'autres points aussi.
Alors, lui, il proposait le point d'amour, ouais. Il proposait le point d'acclamation.
Ouais. Oui.
Qui a les bras ouverts un peu comme le général de Gaulle.
Ah, c'est très
Disant,
visuel.
Je vous ai compris.
C'est très visuel, oui.
Voilà.
Et bon, le point d'amour, c'est deux points d'interrogation qui se regardent un
oui,
peu.
Oui,
hein.
Ça forme
un cœur. C'est très joli, voilà. Ou alors, c'est des créations visuelles. Hein. On se rend bien compte que ce sont des points qui n'ont pas de fonction syntaxique dans la phrase, mais qui ont une fonction émotive.
Pour donner une couleur, enfin,
voilà,
en fait,
d'émotion,
à la phrase.
Voilà.
Donc, le point d'ironie, quand même, je pense qu'il aurait matière à être utilisé.
Le point d'ironie, oui. Alors, évidemment, le point d'exclamation souvent joue le rôle de point d'ironie et quand même, les lecteurs...
Ou lorsqu'on le met entre parenthèses, peut-être.
Oui.
Oui, enfin, il y a plein de moyens, on s'en rend compte, hein, à la lecture, d'exprimer, en fait, avec les signes qu'on a à notre disposition, sans en inventer un autre. Mais pourquoi pas, hein.
Donc ça, c'était dans les années 60.
Oui.
Bah, il y a surtout l'interrobang.
Et l'interrobang, alors Olivier Houdard, l'interrobang... On dirait que vous êtes le défendeur de l'interrobang. Parlez-nous-en.
Non. Lui aussi, il date des 60s.
Ouais, 64.
Il vient des États-Unis. Il a été créé par un publicitaire américain, dont je ne me rappelle pas le nom. Et il cumulait les fonctions du point d'interrogation et du point d'exclamation.
L'un sur l'autre, en fait.
L'un sur l'autre. Mais graphiquement, c'est pas très beau, quoi. Ça fait tout de suite une tache, quoi. Et je pense que ce qui l'a empêché de vivre sa vie, c'est qu'il est pas très beau. Mais si quelqu'un avait trouvé le moyen de le rendre beau graphiquement, peut-être qu'il aurait continué sa vie, quoi.
Et c'était pour exprimer ce que nous, on pourrait écrire en associant et le point d'interrogation
voilà.
Et le point d'exclamation.
Ce qui arrive assez souvent, en fait. Ça arrive, oui, mais même dans la presse, des fois, on peut voir ces deux signes accolés dans un sens ou dans l'aune d'ailleurs, ce qui n'a pas exactement le même sens aussi. Mais effectivement, depuis le 18e siècle maintenant, on peut le dire, ou le 19e, bon, il n'y a pas eu de nouveaux signes qu'on pourrait qualifier de syntaxiques. Et la vraie nouveauté, ça serait ça. Ça serait qu'il y ait un signe qui exprime quelque chose de nouveau. Bon, mais...
Alors, vous proposez dans votre livre le point de dépit mêlé de tristesse.
Oui.
Parlez-nous-en de ce point de dépit mêlé de tristesse.
C'est des points de suspension qui sont verticaux, voilà. Mais
Vous pensez qu'on l'utiliserait souvent, ce point de ce point de dépit mêlé de tristesse?
On n'en a pas vraiment l'impression.
Les poètes, peut-être.
Les poètes. Comment avez-vous eu l'idée, en fait, de ce...
Bah justement, on s'est dit...
Qu'est-ce qui manque?
Voilà.
Qu'est-ce qui nous manquerait pour exprimer vraiment des choses différentes? Et c'est vrai que la joie, c'est vraiment le point d'exclamation, enfin, l'enthousiasme.
La surprise.
La surprise, voilà. Mais que la tristesse n'était pas vraiment facile. Les trois points de suspension ne l'expriment pas vraiment. Et donc, on s'est dit qu'on allait quand même se servir de ce signe-là qui était le plus proche, mais qu'on allait le redresser.
Mais d'ailleurs, dans l'exemple qu'on donne, il est associé au point de suspension. Donc ça fait en tout, ça fait beaucoup de points. Quoi.
Ça fait beaucoup de points. Alors là, c'est pour les signes qui auraient pu avoir une vie, enfin des autres signes. Est-ce qu'il y a des signes de ponctuation
où là, la vie se termine? Je pense par exemple au point-virgule. La vie du point-virgule est-elle... Menacée.
Menacée.
Un petit peu. Le point-virgule est quand même...
Parce que finalement, à quoi il sert ce point-virgule?
Ah, mais...
C'est un point et une virgule? Autant mettre un point ou une virgule?
Non, le point-virgule pose justement ce problème d'utilisation. Parce qu'on a discuté par exemple de ponctuation avec des enfants à l'école, on leur a demandé un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et le point-virgule, ils ne savent pas trop. Voilà, vraiment, ça, autant le point, ils ont bien compris, ça termine une phrase. Mais le point-virgule leur pose un petit problème. Et bon, nous, on a fait un sondage, on a pris un numéro de l'Humanité, le journal L'Humanité, qu'on a lu intégralement, du début à la fin, et on a trouvé, je crois,
un seul, oui.
un point-virgule dans l'éditorial. tout le reste du journal, il n'y avait aucun point-virgule.
Alors, vous pensez que c'est parce qu'on ne sait pas l'utiliser ou parce qu'il nous ennuie plus qu'autre chose ?
Il y a un problème d'utilisation, ça c'est vrai. Et peut-être une peur que ça fasse un peu, un télo élitiste. Alors qu'à mon avis, il est parfaitement utilisable et qu'il y a plein de moments où on pourrait mettre un point-virgule plutôt qu'un point ou plutôt qu'une virgule. Mais c'est vrai que son emploi est un petit peu difficile et c'est plus fin.
Donc, alors, qui êtes secrétaire de rédaction et vous, Olivier Houdard, qui êtes correcteur au monde.fr, est-ce que vous bataillez pour rajouter des points-virgules ? Est-ce que vous essayez de prolonger encore la vie du point-virgule ?
Hier, justement, j'en ai rajouté un dans un titre où il n'y en avait pas. Et à mon avis...
Dans les titres, ça se rajoute, les points-virgules ? En général, c'est plutôt des deux points ou...
Oui, mais justement, là, la construction de la phrase, qui était un peu longue, justifiait l'emploi d'un point-virgule, et je l'ai mis. Bon, voilà.
Alors justement, dans vos emplois respectifs, qu'est-ce que vous enlevez le plus souvent ? Les trois points d'exclamation qui pourraient se suivre, que nous avons tendance à mettre tout le temps ? Quelles seraient nos manies, en fait, qui pourraient exaspérer le correcteur ou le secrétaire de rédaction ?
On n'est jamais exaspéré. Non. Des trop bonnes compositions pour ça.
Non, on n'est pas exaspéré. Mais comme on le disait, la ponctuation, c'est personnel. Et les journalistes, comme tout le monde, ont des tics. À la fois des tics d'écriture et des tics de ponctuation.
TIC, évidemment.
Et des tics de ponctuation. Et c'est vrai qu'on aura le journaliste qui terminera toutes ses phrases par trois points de suspension.
C'est assez peu fréquent, ça, en fait.
Si, et qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc, c'est vrai que souvent, on en laissera un ou deux, et puis on mettra des points la plupart du temps. Ceux qui s'exclament beaucoup, en effet, ça, c'est assez courant. Donc là, c'est pareil, il faut en laisser quelques-uns au bon moment, au bon endroit. Mais s'il y en a partout, finalement, ça annule l'effet voulu. Donc, on en retire aussi un petit peu. Et puis après, la réflexion, c'est surtout sur la virgule.
Oui, voilà.
Voilà, parce qu'en fait, le grand problème dans la ponctuation, c'est la virgule.
Eh oui.
Ah bon ? Mais pourquoi ?
Elles sont souvent mal placées, et elles changent le sens. Ou même si elles ne changent pas vraiment le sens, elles ralentissent la lecture. Une infime fraction
mais
de
secondes. Mais ça permet une respiration, justement.
Oui, mais justement, il ne faut pas en mettre trop non plus.
Vous parlez à quelqu'un qui utilise beaucoup la virgule.
Oui, mais si à chaque complément circonstanciel, il y a une virgule... souvent, la lecture, alors à ce moment-là, est complètement haletante, quasiment. Donc, quand vous faut aussi calmer un peu la phrase.
Donc, quand vous repartez chez vous, vous avez un stock de virgules, un stock de points d'exclamation, quelques points de suspension.
Et puis, on a remis quelques points virgules en circulation.
En douce.
Vous avez transformé, vous avez pris les petits points de suspension que vous avez associés aux virgules pour en faire des points virgules. Dans le futur, proche ou lointain, est-ce qu'il pourrait exister un point universel qui ferait tout ? Là, il n'y aurait plus de soucis de...
Ben c'est un de nos petits élèves qu'on avait interrogé qui nous avait dit ça serait pratique.
On se poserait plus. Un point qui fasse tout.
Non.
Mais c'est impossible, non ?
Non, c'est un peu comme le parti unique. Ouais.
C'est impossible d'avoir une ponctuation.
Impossible, je ne sais pas, parce que tout est possible.
Et finalement, reprendre peut-être la ponctuation comme au 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, avec ce point médian, ce point bas et ce point haut, peut-être, qui finalement était très simple et qui serait compréhensible de tous.
Oui, en Grèce moderne, ils gardent toujours le point en haut. Mais par contre, ils ont tout à fait simplifié les accents. Bon, on pourrait imaginer faire la même chose. La tendance est plutôt vers avec les smileys, par exemple.
Oui, la diversification avec les
smileys. Oui, la prolifération. Et l'informatique et Internet devraient permettre la création.
Donc c'est plutôt positif ? Pour
vous ? Oui, parce que on n'est plus du tout à l'époque de la machine à écrire, avec quelques signes à notre disposition. Maintenant, les possibilités sont infinies et nous, on les attend un peu quand même. On attend un peu la création, quoi. Parce que typographiquement, les possibilités devraient être infinies, justement. Et on a l'impression qu'au plomb, la créativité s'exprimait plus. Enfin, c'est un peu une impression qu'on a, ouais. Et pour le moment, ça a l'air un peu bridé, quoi. Et vous avez quand même des signes de ponctuation ou même des accents qui sont accessibles tapant sur plusieurs touches. Ça, c'est pas très normal.
Il nous faudrait un clavier beaucoup plus grand.
Non, ou il faudrait le redistribuer. Par exemple, les accents en français, bon, ils sont très utiles. Enfin, c'est un peu dommage. Ou le tiret, c'est un peu dommage d'aller chercher au fin fond de...
Oui, parce que le petit tiret qui est sur notre clavier, ce n'est pas le vrai.
Non.
Non.
C'est un trait d'union.
C'est un trait d'union ou une dive. Une division.
Dans le langage des correcteurs.
Dans le langage des correcteurs. Mais oui, enfin bon, on ne peut pas parler de tout.
Pour terminer cette émission, je vous propose de faire un vrai ou faux pour savoir si nous avons bien retenu notre leçon. Alors, vrai ou faux, il est incorrect d'écrire etc., donc ETC, point, suivi de trois points de suspension. Vrai ou faux?
Bien sûr, mais pas dans tous les cas.
Ah.
Mais la réponse est dans le livre.
Ah, mais oui.
Mais en général, oui, c'est une redondance. Parce que...
Donc, on écrit soit trois points de suspension, soit etc. etc.
Avec un point final.
Avec un point.
Un point de suspension ayant parfois le sens de etc., justement. Il a beaucoup de sens, ce signe des trois points de suspension.
Les trois points de suspension.
Oui, mais quand il a le sens d'etc., c'est idiot de mettre etc. avec trois points, quoi.
Alors, autre question. Le point d'exclamation ou le point d'interrogation est toujours suivi d'une majuscule?
Bien sûr que non.
Après un point d'interrogation, on peut redémarrer une phrase sans...
Bien sûr, non, parce que la phrase continue.
Sans majuscule.
Si, la phrase continue.
La phrase continue, oui.
Si en fait... Ça, on en parle aussi un peu. Le point d'interrogation, souvent, est aussi un point d'interrogation un peu rhétorique. C'est-à-dire que la personne qui écrit fait mine de poser une question à laquelle elle va immédiatement répondre. Elle ne pose pas vraiment une question dont elle ignorerait la réponse. Et donc, dans ce cas-là, on a un point d'interrogation qui indique la question posée, et tout de suite après, l'auteur continue en donnant sa réponse. Et là, il n'y a aucune raison qu'il reparte sur une autre phrase. C'est la continuation de la même phrase, et donc il n'y a pas de raison de mettre une majuscule.
Mais tout le monde en met, hein. Y compris la presse, d'ailleurs.
La tendance est plutôt d'en mettre beaucoup. Ouais. Après, c'est deux signes. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. On peut prendre cette liberté de ne pas
de mettre une majuscule ou pas.
D'une façon générale, on constate l'inflation des majuscules. C'est la tendance de tout le monde est de mettre des majuscules partout. Et nous
ah oui, ça c'est aussi un
nous luttons contre cette tendance.
C'est la majuscule outrancière.
D'en mettre à tous les titres.
Mais surtout aux titres, voilà. Et c'est un peu un respect des fonctions qui, à notre avis, est très mal placé, quoi. Un député ou un ministre ou un président, il n'y a aucune raison pour qu'on mette des majuscules à ces fonctions, quoi. C'est des noms communs. Mais la tendance de tout le monde est d'en mettre, et même deux, plutôt qu'une, quoi.
Alors, c'est mon avant-dernière question. Autre question, avons-nous le droit de cumuler plusieurs signes à la fois? Trois points de suspension suivis d'un point d'exclamation, ou deux points d'exclamation, ou un point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation? Est-ce qu'on a le droit?
Ah, on a absolument le droit, oui. Alors, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Parce que c'est quand même assez lourd, visuellement.
On pourrait finir par ne parler qu'avec des signes de ponctuation.
Certains auteurs font des répliques entières avec uniquement des points de suspension, d'interrogation. Bon, évidemment, dans un dialogue, dans une pièce de théâtre, on peut avoir la réaction d'un personnage qui n'est signifié sur le papier que par des signes de ponctuation. Que ce soit la surprise... l'indignation, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on comprend assez bien ces répliques de ponctuation.
Elles parlent à tout le monde.
Oui.
Alors,
elles deviennent des didascalies.
Oui.
Non, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Dernière question, qui est peut-être plus polémique. La conjonction de coordination et ou la conjonction de coordination mais sont-ils suivis d'une virgule? Doit-on mettre une virgule après et ou après mais?
En général, il n'y a pas besoin de virgule après la conjonction de coordination. Que ce soit « et »,« mais »,« or »,
oui.
Voilà, « car ».
Mais « mais », c'est vrai qu'on aurait tendance pour le « mais », mettre « mais », virgule.
Alors ça, c'est vraiment parce que je pense, quelque chose qui est lié à l'oral. C'est-à-dire qu'à l'oral, on a plutôt tendance à dire « mais », et puis on suspend un petit peu, et puis on continue. À l'écrit, la virgule n'est pas vraiment nécessaire. Mais on ne peut pas interdire non plus. Nous ne sommes pas
Donc ce n'est pas incorrect.
Mais il est très difficile de dire que les choses sont incorrectes, puisque on peut toujours trouver un auteur qui a choisi de le faire, pour qui c'était très utile dans sa façon d'écrire. C'est là que ce que je disais au début, je vais le redire, c'est que c'est pas comme l'orthographe, c'est pas fixé une fois pour toutes et on fait comme ça. C'est vraiment laisser un peu à la sensibilité de chacun de faire sa ponctuation.
Même si après, vous êtes là quand même pour relire les
pour
textes,
vérifier
s'il voilà. n'y a pas...
La seule ponctuation qui peut créer des ambiguïtés, c'est la virgule, et qui peut changer le sens. Et là, c'est avec elle que les problèmes se posent.
Olivier Houdard, est-ce que vous partagez l'avis de Sylvie Prioul ?
Bien sûr.
On pourrait avoir des avis différents.
Oui, mais nous avons écrit ce livre à quatre mains.
Ah oui.
Et on était d'accord en général. Non, mais c'était pas un livre pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Hein. C'était un livre pour dire vous pouvez faire comme ci ou comme ça.
En tout cas, on l'a bien compris. Et je le redis, c'est vrai que c'est traité avec beaucoup d'humour. Et en même temps, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je conseille ce livre aux auditeurs qui nous écoutent, qui s'intitule donc « La ponctuation ou l'art d'accommoder le texte », paru aux éditions du Seuil en avril 2006. Et donc, les auteurs, Sylvie Prioul, Olivier Houdard, Sylvie Prioul. Merci de nous avoir accordé cette petite interview et je souhaite longue vie à la ponctuation.
Merci.
À très bientôt, j'espère, peut-être pour une nouvelle émission. Est-ce que vous préparez un autre livre ?
Peut-être.
Ah, peut-être.
Oui, c'est en projet.
Sur les majuscules, peut-être.
Non, ça vaudrait le coup de faire quelque chose sur les majuscules, oui, justement, à cause de leur inflation et de leur prolifération comme des algues tueuses.
Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous voir, d'être venu jusqu'ici à l'Institut de France. Et puis, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.